Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise en cas de spoliation des patrimoines immobiliers de l'État? On en parle dans cette deuxième partie avec nos deux invités, Maître Rifa Luko Moussoubao, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et aussi Elio Mavumu, chargé de l'administration de l'ONG SOS Kinshasa. Vous êtes intéressé? Je rappelle le numéro, il faut le faire par un message vocal au 099-706-9941. Message vocal sur WhatsApp au numéro 099-706-9941. Alain Goy est toujours là, la mise en note. Tati Mapouk également est là à la réalisation et coordination de ce magazine présenté par Marcel Ngomobala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki.
Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Telephone Eleli, America Bengi, Mpoto
les informations de Radio Okapi sur votre téléphone en composant le 42 502, puis le 311 sur Vodacom pour ne rien rater de l'actualité du pays. Les informations de Radio Okapi avec vous partout et comme vous voulez sur votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, unique pour réserver aux abonnés Vodacom.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. On va parler des sanctions prévues par la loi congolaise en cas de spoliation des patrimoines immobiliers de l'État. Maître Rifon Luko Moussouba Wavoko Baro de Kinshasa Matete vient de entrer dans ces studios. Maître Rifon Luko, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien.
Tout à fait.
Voilà, on va rappeler le numéro, hein, si vous êtes intéressé par ce sujet, vous allez réagir, je insiste, hein, ne vous le faites par un message vocal au 099-706-9941. Et comme vous le savez, il y a plusieurs particuliers qui sont en procès avec l'État congolais pour des maisons ou des concessions qui sont répertoriées comme étant du patrimoine du domaine public de l'État ici à Kinshasa et dans presque toutes les provinces de la RDC. Et bon nombre de cours dans les écoles publiques se transforment en maisons commerciales. Et certains édifices publics sont au fil des années récupérés par certains concitoyens sans pour autant respecter la procédure légale de désaffectation, c'est ça, de désaffectation de ces sites. Alors, à quelles sanctions s'exposent celles qui se permettent de spolier les patrimoines immobiliers de l'État? Quelles sont les dispositions légales qu'il faut mettre en place pour sécuriser les patrimoines immobiliers de l'État? Maître Rifon Luko, avocat au barreau de Kinshasa Matete, le procès concerne l'expoliation du patrimoine du domaine public de l'État, surtout pour ce qui est de l'immobilier. C'est vraiment récurrent en RDC. Qu'est-ce qui explique d'abord ce phénomène? Parce que il faut le dire, c'est vraiment un phénomène que les gens s'intéressent toujours au patrimoine immobilier de l'État.
Voilà, donc je disais qu'il est également avocat au barreau de l'Ituri.
De l'Ituri, voilà, ok, donc, merci.
Je suis également là-bas. Je suis fier d'être de l'Ituri également. Donc, évidemment, messieurs les journalistes, Ngombombala, c'est l'un des domaines où les responsables ont négligé pendant plus de 30 ans la protection du domaine public de l'État. Je vais vous dire ce que ça représente.
Oui.
Ça représente que tout l'argent que nous dépensons pour le paiement des hôtels, de tous nos responsables que nous envoyons, ce qu'on appelle les dirigeants ou les animateurs des services extérieurs de l'État, c'est-à-dire les services centraux qui sont représentés en province, les frais d'hôtel que nous payons chaque fois que nous nommons un directeur provincial, un chef de division que nous envoyons en province, eh bien c'est énorme. Alors que l'époque coloniale, c'est-à-dire à l'indépendance, la colonisation nous a légué des résidences, des bâtisses, ça veut dire des bâtiments publics, des résidences pour tous les agents de l'État. Donc, c'est-à-dire les agents de la sécurité, les agents de la justice, les agents de la fonction publique, pire, étaient tous logés. Et la seule chose que nous avons fait, c'est systématiquement d'abord laisser ces bâtiments presque à l'abandon, donc dans la vétusté, pas d'entretien, pas de quoi, jusqu'à ce que beaucoup se soient effondrés. Et ceux qui sont restés, on a commencé à les vendre les uns après les autres, c'est-à-dire ces bâtiments. Et qui les achetait? C'est essentiellement les ministres à fonction, les gouverneurs à fonction, les généraux et consorts. Et vous me demandez que dit la loi en ce qui concerne les sanctions par rapport à ces gens-là. C'est presque pas grand-chose. La seule infraction qui est prévue, c'est le stéléonat, c'est-à-dire la vente d'un immeuble qui ne t'appartient pas. En termes de prévention, des
sanctions... Mais dites tout d'abord, maître, mais qui est censé protéger ces immeubles?
Principalement, c'est le gouvernement.
Oui.
Et si vous voulez que je vous dise, dans le gouvernement, c'est qui? C'est le ministère, le ministre de l'urbanisme et habitat, le ministre des affaires foncières, n'est-ce pas? Parce que dans l'urbanisme et habitat, lui, gère l'ensemble de tous ces patrimoines.
Et c'est répertorié au sein de ce ministère.
Non seulement répertorié, c'est connu. Donc, si par exemple on remonte à la conférence nationale, c'est ce qui est plus récent. Conférence nationale souveraine. Nous sommes à 91-92. Ça avait été répertorié, c'est-à-dire province par province. Et ces biens publics de l'État, n'est-ce pas, concernaient non seulement les biens publics de l'État, pire, et les biens publics des entreprises de l'État. Ça veut dire la RVA, vous voyez, la RVA, c'est qu'elle avait comme concession dans le pays. L'OCPT. regardez l'OCPT, tout ce qu'il avait comme parcelle, concession, au travers tous les pays.
Même la Chicamine aussi.
La Chicamine, n'en parlons même pas, nous parlons des entreprises publiques de l'État. Tout ça, ça a été les unes et les autres spoliés. Et la difficulté de la sanction, c'est quoi? Comme je viens de vous dire, qui les achète? Qui les... Bon, ce n'est même pas, on allait acheter. Qui les spolie? Ce sont des autorités.
Ceux qui sont censés le protéger.
Voilà. Alors, donc, ceux qui sont censés le protéger, ce sont le premier. Et pourtant, dans d'autres pays, vous touchez au bien de l'État, c'est la peine capitale. Donc, vous êtes inutile à servir l'État. Et vous vous rappelez que lorsqu'on parlait de la prévention, c'était, mais si on l'a déjà parlé, on l'a déjà développé plusieurs fois dans ces antennes ici pour, n'est-ce pas, alerter nos populations que nous avons besoin, nous, de nous appuyer sur notre colonne vertébrale, notamment les biais de l'État. Parce que les biais de l'État nous empêchent de dépenser inutilement de l'argent pour rien. Regardez, lorsqu'on parle des biais de l'État, est-ce que vous vous rappelez que nous avions des immeubles à Bruxelles, à Londres, à New York, pour la compagnie nationale aérienne, pour la Gécamine. Pour ne citer que d'abord ces deux-là, la Gécamine, la Miba, l'Okimo, l'office des mines d'or de Kilomoto et la compagnie aérienne nationale. Nous avions des immeubles. Vous vous rappelez, l'ambassadeur, notre ambassadeur, Olivier Kamita Toumassamba. Cléophas, pas Olivier. Kamita Toumassamba, Cléophas. Qui a vendu notre ambassade? Bon, évidemment, lui, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, le procès est lié, on l'a condamné, il est mort avec cette peine-là, on l'avait condamné à 10 ans de travaux forcés, et avec privation de tous ses droits politiques, et il est décédé avec cette sanction-là sur sa tête. Donc, au moins, là, on l'a sanctionné, parce qu'il avait vendu l'ambassade, et il a acheté une villa à lui, à Bruxelles. Donc, je crois que si cette question-là, ce qu'on appelle les valeurs cardinales d'une nation, nous devons être intraitables. C'est comme si dans notre pays, il n'y a rien sur lequel nous sommes intraitables. Il n'y a rien. Donc on peut naviguer, on peut s'amuser sur toutes choses. Les biens de l'État sont les biens le plus précieux parce que ça représente tout le monde et ça c'est d'hier, c'est d'aujourd'hui, présent et à venir.
Alors après, si maître, dites-nous d'abord quelles sont les sanctions prévues en cas d'exploitation de biens de l'État, du patrimoine immobilier de l'État.
C'est juste la récupération et les sanctions. Bon, en ce qui concerne Kamita Toumassamba, on l'avait condamné à 10 ans. Donc, si on met ça dans le cadre de détournement des biens de l'État, eh bien, c'est le maximum, c'est 20 ans, n'est-ce pas ?
20 ans.
20 ans de travaux forcés, comme vous avez entendu. Parce que ce sont ces peines-là qu'on a appliquées dans le procès Vital Kamerhe. 20 ans, n'est-ce pas, de travaux.
On récupère d'abord les biens de l'État.
On récupère les biens de l'État. Et vous condamnez, vous allez faire la prison avec privation des droits civils. Donc, en principe, la loi prévoit que c'est lui qui sera coupable de ça. On n'a plus besoin de lui de servir l'État à quelque niveau que ce soit. Donc, jusqu'au niveau. Parce que le niveau de la loi actuelle, le niveau le plus bas, c'est les chefs de secteur, comme ceux qui ont été nommés récemment. C'est le niveau le plus bas et les chefs de quartier. Vous, dans les villes, chefs de quartier, dans les territoires, chefs de secteur, vous ne pouvez plus servir l'État parce que vous vous êtes rendu coupable du détournement des biens de l'État, notamment des biens immobiliers de l'État.
En plus, vous avez dit que ces biens sont répertoriés, sont bien connus. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vend ces biens et puis il y a deux procès?
Vous avez parlé du terme désaffectation.
Exactement.
C'est ce fléau-là. Le ministre, donc, lorsqu'on le voit venir, il veut faire détourner le bien de l'État. La première chose, il le désaffecte. Pour qu'il sorte de la couverture qui protège le bien de l'État, c'est ce qu'on appelle les domaines publics.
Et cette désaffectation, c'est fait du bon vouloir du ministre.
Bon, maintenant, il y a une loi qui essaie, maintenant, il y a une nouvelle loi avec le nouveau ministre ici des Affaires foncières. On a pris une nouvelle loi.
On essaie pas de mettre
pour mettre une commission. Une commission désormais. Tout cet état ici, c'est le bon vouloir du ministre. Il peut désaffecter. Il s'élève. Donc, dans le processus de vendre soit à des Indo-Pakistanais ou à des Libanais pour y mettre un supermarché ou un consort, vous apprenez qu'il a désaffecté. Alors que l'État a besoin de cet immeuble-là, on l'a désaffecté. Parce que le bien, tant qu'il demeure dans le domaine public de l'État, il est intouchable. Il est inaliénable. Mais pour enlever la couverture de l'inaliénabilité, vous apprenez qu'on l'a désaffecté. C'est-à-dire, on l'a sorti du domaine public pour le ramener dans le domaine privé, là où on peut le vendre, et c'est ce processus-là. Je me rappelle que la Cour de cassation avait condamné un certain Mangwanda Gifudu, ministre des Affaires foncières, pour avoir désaffecté un bien qui pourtant, il n'y avait aucune raison de le désaffecter, et il l'a vendu. Et donc, Ça, c'est une jurisprudence pour rappeler que même si nous sommes dormants, parce que nous sommes dormants, parce que ceux qui spolient, ce sont les autorités, et en même temps, vous l'apprenez, il a spolié et il a vendu ça à des milliers de dollars, alors que l'État ne reçoit même pas un dixième de son bien qu'on vend par le ministre.
Donc de son bien qu'on va parler. Il était temps de mettre en place cette commission qui, on espère, va bien faire son travail.
Oui. Et donc, c'est important que chaque fois qu'on fait des commissions, que dans ces commissions-là, il y ait la représentation. Vous vous rappelez ce qui se passe à Goma actuellement. Ce qui se passe de la plupart des États des sièges. Donc, c'est comme si c'est la chasse aux biens publics de l'État. Les stades, les espaces verts, les immeubles abandonnés. Tout c'est systématiquement pour chasser, même les espaces verts pour la population, c'est baigner dans les lacs. Tout s'est vendu. Donc bref, il faut que cette commission-là non seulement soit représentative par les membres de la société civile, par les représentants de la population, même si beaucoup de représentants de la population se sont fait corrompre par tel ou tel autre émoulement, oui. Mais au moins la représentativité permet que ça ne soit pas seulement des fonctionnaires qui fassent partie de cette commission, que ça soit la population elle-même pour veiller à ses propres biens.
Maître Riffel, on revient à vous, on va rapidement nous tourner vers le message que nous adressent les auditeurs sur WhatsApp. Il y a Justin Calabia qui a réagi depuis Goma. Également bienvenue à Kikwit. Je rappelle, si vous voulez également intervenir, vous le faites sur par un message vocal sur WhatsApp au numéro 099-706-9941. On va écouter Justin Calabia depuis Goma. Bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Marcel Ngombo Mbala, bonjour à notre invité, Maître Riffé Momanto. Nous sommes très contents de la pertinence de ce sujet qui s'intitule « Quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise en cas de spoliation des patrimoines immobiliers de l'État ?» En tout cas, dans ces pays ici, nous avons des lois, mais qui ne sont pas mises en vigueur. Nous avons des lois théoriques. Et nous avons des autorités qui ne se soucient pas même de la vie quotidienne de la population. Nous avons des parlementaires, nous avons des autorités. Mais est-ce que ces autorités ont pitié de ces pays? Je ne crois pas. Je sais que pendant le régime passé, il y avait une exploitation notoire de régime passé. Mais après le régime actuel, ce n'est que de l'utopie. C'est comme vous déshabillez Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. En tout cas, nous fustigeons en tout cas c'est le comportement des dirigeants congolais. Parce que en quel dirigeant a pitié de ces pays-ci? Est-ce que, monsieur Marcel, je vais vous poser une question. Vous connaissez l'IFASIC? Autour de l'IFASIC, il y a maintenant des kermesses. Il y a beaucoup de choses qui sont créées maintenant par, donc, des maisons de l'État qui sont occupées par des individus, par des particuliers. Alors que, ce sont des biens publics de l'État qui doivent être protégés par l'État. Maintenant, moi, je ne sais pas, peut-être Maître Riffin, comme c'est lui l'expert à la matière, il va nous expliquer que dit la loi congolaise lorsqu'un bien de l'État est exploité. Est-ce que pendant tout ce temps écoulé, ces gens-là peuvent payer tous ces biens ou tout l'État qu'ils ont exploité, tous ces biens de l'État-là, des maisons, des concessions de l'État? Moi, je pense qu'il y a même des, il y a même, est-ce qu'un individu peut acheter une grande concession, par exemple Kingakat? Moi, je pense que nous ne pouvons pas ignorer tout ce qui se passe dans ces pays. Et quelqu'un peut acheter même un territoire et il se dit que ce sont biens privés. Alors que l'État, il paie lui, alors que nul n'ignore que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État dans ces pays-ci. Alors, je pense que Maître Riffé, lui, il va en tout cas expliquer la lanterne en tout cas de mes questions. Merci, monsieur Marcel, et bonne journée.
Merci Justin Kalabia depuis Goma. Bonne journée à vous aussi, Maître Rifoluko. Votre réaction.
Voilà, donc merci Monsieur Justin pour la question. Vous parlez de l'IFASIC, c'est connu, hein, donc vous parlez de l'IFASIC. Il n'y a pas que l'IFASIC. Pour vous aider peut-être à prolonger votre illustration, il y a également le terrain qui était consacré à abriter la bâtisse de l'hôtel de ville de Kinshasa et qui était à côté de la voie du Zaïre, donc la RTMC actuelle. Et cette parcelle-là, qui l'a vendue? Qui l'a vendue et qui l'a spolié? Et lui-même est en état de c'est l'ancien gouverneur. Non, c'est lui qui est l'ancien gouverneur de la ville qui était chargé de protéger la chose et qui l'a spolié. Et c'est devenu tout un quartier qu'on appelle quartier Bova de la RTMC aujourd'hui. Vous voyez? Donc, les quartiers Bova de la RTMC, ça c'était consacré à abriter la bâtisse de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et quelle est la sanction? C'est-à-dire, lorsque c'est la sentinelle qui dévalise la maison, qui va protéger la maison, lorsque c'est celui qui est chargé de veiller sur la maison qui vole, qui va protéger le bien? Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans une situation, notre pays est dans une situation, c'est la sentinelle qui est le voleur. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi la population doit veiller quel genre de sentinelle nous mettons pour veiller sur nos biens. Parce que nous, ce qui nous vole, c'est celui que nous chargeons de protéger nos biens. C'est celui-là qui nous vole. Alors donc, il faut veiller. Ceux qui sont chargés de vous défendre au Parlement, ce sont eux qui sont chargés de vous trahir. Parce qu'ils reçoivent de l'argent. Vous voyez? Donc, nous avons là un problème. Nous avons un problème moral énorme par rapport à ce que Justin dénonce là. Il a parlé de beaucoup d'exemples. Il a parlé de ces problèmes d'achat de territoires entiers. Or, notre loi parle que pour un certain nombre de superficies, pour obtenir ça comme propriété privée, il faut l'autorisation du président de la République. On peut considérer donc que l'ancien président de la République s'est autorisé lui-même, et ça s'appelle un crime d'initié, un délit d'initié. De prendre les biens de l'État en s'autorisant toi-même de les prendre. Donc, ça, je ferme cette parenthèse-là. Mais la plus grande chose qu'il fallait, à laquelle il fallait veiller, c'est la loi constitutionnelle qui parle pour protéger les biens de l'État qui, à l'entrée en fonction de tout responsable politique, il faut la déclaration des biens et à la sortie. Lorsque vous entrez, vous vous rappelez le problème qu'on fait mettre en soubassement de l'assassinat de Thierry Bey Okene, que non, il était invité pour aller pour une déclaration de biens après sa sortie du gouvernement. Donc, cette obligation-là constitutionnelle, en principe, on devait y veiller. Parce que nous sommes dans le pays où une personne entre en babouche.
Nos dirigeants ont du mal à respecter.
Mais parce que c'est la sentinelle qui vole. Parce que c'est la sentinelle qui est le voleur. Ça, c'est un défi pour notre pays, c'est un défi pour l'Afrique. On ne peut pas respecter des dispositions où c'est celui qui est chargé de faire respecter les dispositions qui est le criminel, qui est le bourreau. C'est ça la difficulté. Ça veut dire, vous devez déclarer. Nous voyons déjà entrer à babouche, à des ministères, à des entreprises et consorts, d'autres venir à vélo ou bien à Wewa et sortir avec des jets. Sortir avec des ranges, des territoires anciens. Vous devenez grand prêtre et grand moutou parce que tout simplement, on n'a pas respecté les dispositions qui t'imposent qu'on sache que tu es entré locataire et que tu dois justifier comment, dans moins de 3 ans, comme un premier ministre qui était entré locataire et dans moins de 4 ans de ministère, premier ministre, un député parlementaire avait compté qu'il avait acquis à Kinshasa plus de 54 villas. Plus de 54 villas et immeubles. Vous imaginez ce que ça fait dans moins de 4 ans? Ça veut dire manifestement c'est un enrichissement illicite. Nous nous battons contre ça depuis longtemps. Manifestement c'est un enrichissement illicite qui révèle l'ampleur du détournement et de la corruption auquel vous êtes livré pendant tout votre mandat.
Ça c'est très intéressant. En reviendant également sur ça dans nos prochaines émissions sur ce qu'est dit la loi, ce qui concerne l'enrichissement illicite. Alors, s'il faut insister par rapport aux sanctions prévues par la loi en cas de spoliation des patrimoines immobiliers de l'État, vous avez parlé de 20 ans de travaux.
Et la privation des droits civiques et politiques. Donc voilà. La personne qui se livre à ça, comme nous avons parlé de Cléophas Kamita Thomasamba, parce qu'en tout cas, c'est la jurisprudence la plus récente, même si elle date de plus de 10 ans maintenant, eh bien, on l'avait condamné à 10 ans. Le maximum, c'est 20 ans, mais lui, on l'avait condamné à 10 ans, avec 10 ans de privation des droits civiques, donc pendant tous ces temps. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il en était mort sans avoir y à exercer encore des charges publiques.
Avant d'écouter, bienvenue, qui a réagi à des piquets-couilles à ce numéro, par un message vocal au 099-706-9940. Si vous voulez bien répondre, mettre Riffin Loukou à cette question de Christian Kalibouzo, qui nous écrit depuis la ville-province de Kinshasa. Est-ce que les patrimoine de l'État doit avoir aussi les certificats d'enregistrement?
Absolument. Absolument. Et donc, d'ailleurs, je crois que les ministres Kisombe, si ma mémoire est bonne, ou Kisimbango, le fils de Kisimbango, c'est lui qui avait commencé cette procédure-là d'accélérer, n'est-ce pas, la dotation des certificats à tout espace public de l'État. Parce que jusqu'à lui, apparemment, ce n'était pas le cas. Parce qu'on savait déjà, on savait seulement que c'était un patrimoine foncier de l'État, c'est une parcelle de l'État, c'est un immeuble de l'État sans certificat. Et depuis, je crois, c'était les années 2008, 9, 10, on a commencé à octroyer. Il faut octroyer. Aujourd'hui, je crois que c'est le cas. Il n'y a plus beaucoup, parce qu'on en a tellement spolié, nombré, et les gens se précipitaient à obtenir un certificat sur ce lopé de terre ou sur cet immeuble-là, alors que l'État propriétaire, lui, n'avait pas de... Mais c'est vrai, dans la logique des biens du domaine public de l'État, en principe, ces biens-là n'ont pas besoin de certificat.
Mais plus
de par l'air natif.
Justement, mais à cause du désordre,
maintenant,
il fallait sécuriser.
Voilà, à cause du désordre. Maintenant, la plupart de ces biens-là ont des certificats. Et là où il n'y en a pas, ça serait une irresponsabilité de l'animateur, soit le ministre, soit le PDG ou le comité de gestion qui gère et qui ne demanderait pas aux conservateurs. Parce que je crois, à l'époque, on avait ordonné que, par le premier ministre, que tous les conservateurs puissent délivrer des certificats à tous ces. Parce que les conservateurs gagnent également, parce que ce sont eux qui vendent finalement. En complicité avec le ministre ou avec le gouverneur, ce sont eux qui délivrent le document. Donc ils avaient également intérêt que ces parcelles-là, parce que c'est le conservateur qui sait que cette partie-là appartient à l'État et n'a pas de titre. Donc c'est celui qui souffre. Il est le premier qui souffre au ministre ou, n'est-ce pas, au gouverneur. Non, et si Gawana et Zana Moutouté. Alors que lui sait qu'il est à l'État. Et donc, c'est dans cette criminalité ambiante et rampante, ça a plus ou moins eu beaucoup de sanctions, que ces gens-là prospèrent à continuer à spolier les biens publics de l'État. Il suffit seulement qu'un premier ministre se réveille, ou comme à l'époque, vous vous rappelez, un ministre de la Justice qui fait peur aux membres du gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, hélas. Le ministre de la Justice devait faire peur aux membres du gouvernement, même au premier ministre, pour qu'il réalise que c'est la perte du gendarme qui est le commencement de la sagesse. Pour la Bible, c'est la crainte de l'Éternel. Pour la justice, c'est la perte du gendarme. L'on doit craindre.
Et les gendarmes, c'est qui?
Les gendarmes, c'est la justice.
C'est
la justice qu'on doit craindre. Les gendarmes, c'est la police. Les gendarmes, c'est les inspecteurs judiciaires. Les gendarmes, c'est l'IGF. Les gendarmes. Donc, il faut qu'il y ait des services qu'il faut payer aux criminels. Enfin, aujourd'hui, le Koulou n'a sa mise et tout ce qui se passe dans la ville parce que les gendarmes n'ont plus peur de lui.
Et vous l'avez dit, c'est triste pour un pays où il n'y a aucun secteur où on est intransigeant, on est intraitable. Et dans tous les secteurs, on peut faire tout ce qu'on veut, on s'amuse.
Voilà, et ça doit commencer par là, Marcel Ngombombala. Qu'elle en réveille les services qui doivent faire peur. Vous avez vu la marche qui a eu lieu, la marche de l'armée, qui a eu lieu avant-hier. C'est pour rappeler que le pays, l'autorité de l'État existe. Cette marche-là n'était pas marché pour arrêter les gens. C'était une marche, on a appelé ça une marche dissuasive, pour rappeler aux uns ou aux autres que si vous aviez eu l'impression que l'État a disparu, comme certains disaient que Mboke Koufakala, non, le pays est en train de se ressusciter. Et si vous vous amusez dans tel coin ou dans tel autre, ou telle frontière de notre pays, l'armée est en train de surveiller.
Voilà, on va écouter Bienvenue qui a réagi depuis Kikwit. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Radio Okapi. Je m'appelle Bienvenue Kikala, je vous appelle à partir de Kikwit. Je suis vivement intéressé par le débat du jour. Je me demande, est-ce que vraiment on peut parler de la spoliation des biens publics de l'État? Parce que l'État est censé protéger tous les citoyens de son pays. Si l'État se trouve être victime de spoliation, est-ce que il n'y a pas de complicité? Parce que la question que je suis tenté de poser, il y a des personnes plus fortes que l'État. l'État qui a le monopole de la violence, l'État qui a tous ses textes, l'État qui a tout sous sa gestion, il doit être spolié. On se demande, est-ce que ce ne sont pas des jeux de ping-pong ou réellement l'État peut être spolié? Parce que, alors, que servent les juridictions? Que servent les cours et tribunaux? Parce que c'est à ce sens-là que ces situations devraient être résolues. Mais si l'État aujourd'hui se trouve dans la situation où lui-même est victime, allons-nous parler de nous, des petits peuples?
Merci, bienvenue. Kinkata, depuis Kikwita, Maître Rifalouk.
Allons-nous parler de petits peuples? Donc, lorsque l'arbre vert peut être brûlé, qu'adviendra-t-il de l'arbre sec? Évidemment. Nous venons de dire, monsieur.
Bienvenue.
Bienvenue à Kikwit, que nous avons le drame, nous, d'avoir le voleur, c'est la sentinelle. Donc, c'est celui qui est chargé de protéger, qui est le voleur. Voilà. Et donc, c'est ça le drame. Donc, c'est ça le défi. Donc, le défi est connu. Nous, le voleur ne vient pas de l'étranger. Il ne vient pas de l'Union européenne. Le voleur, c'est notre sentinelle. Ça veut dire l'autorité qui est chargée de protéger la chose, c'est lui le premier voleur. Si vous voyez la plupart des procès en matière de tripatriage immobilier, tous ces procès-là, les conservateurs sont impliqués. Tous ces procès-là, que ce soit à Kisangani, à Lubumbashi, Bujima, Ikananga, vous allez au Congo central, vous allez à l'Équateur, partout au Kivu, le conservateur est toujours impliqué. Il a sa main dans tous ces tripatriages. Pourquoi? Alors que c'est lui qu'on appelle conservateur des titres immobiliers. Donc c'est celui qui devait veiller sur les titres. Mais c'est lui le premier suspect. Vous voyez? Donc nous avons un problème et nous devons réformer ce texte. Nous sommes étonnés, nous l'avions dénoncé ici, vous rappelez, Marcel. Ça veut dire, nos représentants, nos législateurs, nos députés, pour une loi qui vient de la communauté internationale, des agences des Nations Unies, tout le monde se précipite. Mais les lois qui concernent les réformes pour sécuriser la population, pour sécuriser les biens de l'État, pour la promotion de certaines valeurs, c'est rare que vous appreniez. Par exemple, lorsqu'on apprend que dans les histoires des enlèvements ici, et des ventes des organes, il y a eu des repris de justice déjà qui étaient déjà condamnés, qui sont sortis. Mais on devait donc veiller pour que les prochaines amnisties, les prochaines grâces, ne puisse pas concerner, il faut un texte de loi que ça ne concerne plus déjà qu'on appelle les récidivistes. Et on peut même remonter que le récidivisme, nous pouvons faire remonter ça dans une réflexion du droit pénal, pas seulement à une condamnation définitive. On peut, ces gens-là que la police arrête régulièrement, on peut faire remonter une spécificité congolaise pour que la récidive commence par le service de la police. Parce que la police arrête beaucoup de coupables mais qui ont appris à s'entendre avec certains magistrats, la population a dénoncé ça.
On dit que tout ça, c'est parce que ce secteur n'est pas digitalisé, donc on ne sait pas reconnaître de fois...
Pourquoi le secteur n'est pas digitalisé? Parce qu'ils ont des archives. Beaucoup de postes de police ont des ordinateurs. Pourquoi nous avons un ministère du numérique maintenant et on doit laisser la police non digitalisée? Pourquoi? Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que c'est ce que nous appelions encore ici ces antennes, et n'est-ce pas, la communauté nationale a déjà consacré ça, les refus de gouverner pour mieux vivre la corruption. C'est-à-dire, vous ne gérez pas. Vous attendez le rapport le soir. Vous refusez de gouverner. Donc vous avez été nommé pour gérer, mais vous dites non, je ne fais rien. Il y a eu des mairies, hein, il y a eu des gouverneurs des provinces qui ont refusé de gouverner, laissant les opérateurs économiques faire ce qu'ils veulent, et le soir ou le samedi ou à la fin du mois, vous avez vos rapports. Les refus de gouverner pour mieux vivre de la corruption.
Puisque vous parlez de gouverneur, il y a cette réaction de Sylvain depuis Bukavu sur la page Facebook Okapi Service. Et il nous écrit ceci. Quel serait le sort de nos gouverneurs de province qui vendent des biens publics de l'État pour leurs intérêts personnels?
C'est la prison. La prison et la privation des droits civiques et politiques. Il ne faut pas seulement les démettre comme on le fait dans certaines provinces, où on les met dehors, on les boue dehors, mais il faut l'action publique. Il faut que le parquet général puisse se saisir de lui et puis l'amener devant les juges, on les condamne et on les prive de ses droits civils et politiques. C'est prévu par le code pénal que ce genre de prévention, ce genre de crime, vous devez être privé à ne plus servir l'État. Parce que ils sont nombreux qui ont juré que Tokoku Fapo na Congo dans la corruption. C'est-à-dire que
quel que soit ce que vous ferez, nous, nous allons rester là toute notre vie, en train de détourner, en train de nous faire corrompre, en train de ramasser des richesses, et nous, nous y sommes et nous y restons. Voilà. Ils sont là. Et vous, nous le voyons. Ils s'enrichissent chaque jour au dos de l'État.
C'est comme qui, je ne sais plus qui l'avait dit, quelqu'un l'avait dit dans ce pays, c'est comme si les gens rivalisent d'ardeur par rapport à la concurrence sur le détournement, sur la corruption. C'est-à-dire, moi j'ai fait plus que toi en détournant tel montant et tout.
Ça prospère pourquoi ? Où est la justice ? Vous vous rappelez ? C'est un scandale d'apprendre qu'un Premier ministre avait demandé à l'IGF, par un décret du Premier ministre, que non, IGF. Bofanda calme, Zalawan. Et cours de compte, Bozalapewana. Vous imaginez ça? Ce genre de Premier ministre doit subir l'opprobre national qu'on a signé à Genève. C'est-à-dire qu'il n'exercera plus rien en faveur de l'État. Non. Laissez-nous tranquilles, vous IGF, vous, pour que nous puissions voler, nous enrichir, tout simplement parce que la justice a démissionné il y a longtemps. La justice, où est-elle la justice? C'est ce que nous appelions la fois passée, n'est-ce pas? La neutralisation de la sentinelle. Lorsque la sentinelle est neutralisée, là nous venions de parler de la corruption de la sentinelle, c'est lui qui est le voleur, mais lorsqu'on neutralise, c'est lui qui doit gérer. Vous voyez, c'est lui qui doit vous sécuriser, il est neutralisé, donc ceux qui sont de la maison, eh bien, ils n'ont plus de sécurité.
Maître Riffin, on est en train de parler des sanctions prévues par la loi congolaise en cas de spoliation du patrimoine immobilier de l'État et vous n'arrêtez pas de le rappeler tout ça c'est lié à la faiblesse, tout ce qu'il y a comme faiblesse au sein de notre justice et pour ce qui est de notre justice, il n'y a plus rien à redire là-dessus parce que même le chef de l'État le dénonce. Alors, on a reçu dernièrement un avocat, Maître Dieudonné Tshibombwa, qui est avocat au barreau de Kinshasa, au barreau de Kinshasa, Gombe, mais aussi de Bruxelles, et aussi, si j'ai bonne mémoire, à Kananga. Il a parlé de cette justice qu'il faut absolument qu'il y ait des états généraux.
Absolument, mais tu sais, bon, moi je ne sais pas. Alors, nous avons des dizaines d'années, des centaines, comme conseil d'État ici, et nous scrutons tous ces sujets. Alors, qui nous écoute ? Personne. Nous avons... Bon, si, par exemple, on peut survoler la situation de Floribert Chebeya, son assassinat, on n'a tiré aucune leçon. Et parce qu'on n'a pas... Floribert Chebeya était le pressenti président du CNDH. Ça devait être le premier. Et qu'on a assassiné avant sa nomination. Là, nous avons un Cheribé Okende, une sommité en politique. Quel que soit son cas politique. Mais une sommité. Il a exercé le ministère de l'économie. Et moi, j'ai étudié avec lui en faisant mon doctorat à l'université de Kinshasa. Il avait terminé sa thèse de doctorat. Je l'ai reçu sur cette antenne. Donc, c'était une sommité nationale qui meurt comme ça. Parce qu'on n'a pas tiré la leçon de quoi? De la protection des autorités, du respect de nos lois. Et lorsque les lois ne sont pas respectées, la justice doit faire la différence. Lorsque le chef de l'État devient comme un évangéliste qui rappelle les versets de la Bible, des proverbes, que la proverbe 14, la justice élève une nation. Non, le président de la République s'est exposé presque à pleurnicher pour demander, j'ai compté beaucoup sur vous. C'est ça ses propos. La justice doit relever la tête. Marcel, nous nous battons, ça fait vingtaine d'années. Pour que la justice relève la tête. À l'époque de Rousseau, Bambilessa, la justice avait déjà relevé la tête. On avait commencé à craindre la justice. On craignait le ministre de la justice. Nous déplorons le fait que nous ne sentons plus rien. La justice doit faire peur. Mon Dieu, la justice... Vous vous rappelez lorsqu'on disait, c'est qu'un procureur, un procureur général n'a pas d'amis, n'a pas d'état d'âme. Il peut arrêter le président de la République. Il peut arrêter le Premier ministre. Non, aujourd'hui, maintenant, on commence à... Tokomo Bonde, la Premier ministre, pour Tokangaï.
Donc, il suffit d'un soupçon de détournement. Il peut initier une enquête.
On doit faire peur aux criminels. Le fait... Donc, tout ce que nous dénonçons ici, c'est parce que les grands criminels qui se recrutent et qui se cachent dans la politique n'ont peur de personne. C'est pourquoi... Les gens pouvaient dire que non, cours constitutionnel Zaki Abisso, cours de cassation Zaki Abisso. Vous imaginez ça? Maintenant nous nous redresserons comment? Parce que c'est la justice qui doit élever la nation. Mais les policiers disent que non, Zaki Abisso. Non, c'était dans la poche. Cours constitutionnel. Cours de cassation dans la poche. Et les avocats se battent chaque jour pour plaider, pour plaider, chanter. Mais les choses ne changent pas parce que la corruption a rompu
broyer la colonne vertébrale de ceux qui doivent nous défendre.
Alors, par rapport à cette question de sanctions en cas d'expoliation des patrimoines immobiliers de l'État, il suffit que la justice puisse faire son travail de sanctionner. Comme vous avez dit, les sanctions, c'est fait.
Rappelez-vous vous-même, lorsque le procès Vital Kamerhe a commencé, l'espoir que ça a suscité. Rappelez-vous, vous êtes journaliste ici, ces antennes, l'espoir que ça a suscité, pas au Congo seulement, pour toute l'Afrique. Et regardez ce que ça fait comme déclic en termes d'effondrement lorsque les choses se sont passées autrement à la fin de l'histoire, à la fin du parcours de ces procès-là. Donc ça veut dire l'espoir que ça suscite lorsque la justice élève la tête. Chaque fois que la justice relève la tête, et tant que nous n'aurons pas des animateurs qui peuvent ranimer la justice, c'est possible. C'est possible. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, les choses s'étaient déjà relevées. Voilà. Donc, ça veut dire cette question-là, je crois que c'est une question fondamentale. Nous avons entendu le chef de l'État, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, les choses ne changeront pas parce que vous les avez constatées. Les choses changeront lorsque tu prendras ton stylo rouge pour sanctionner ceux qui n'ont aucune colonne vertébrale pour faire dresser les choses. Et mettre ceux qui ont des capacités, ceux qui ont ce qu'on appelle, ce que l'IDPS détient, qui s'est appelé les vertébrés.
Là, vous rejoignez également Maître Dieudonné Tshibobwa qui a relevé la même chose, qui a dit, c'est vrai, c'est le magistrat suprême, il a fait confiance à la justice, à l'indépendance de la justice, mais malheureusement, c'est pas le cas sur le terrain.
Il doit sanctionner ça positivement ou négativement. Absolument, lorsque j'emprunte le terme vertébré, ça vient de l'IDPS des années 82, et des années 90 de la conférence nationale, il faut des animateurs vertébrés qui ont la capacité, je ne veux pas utiliser des termes impropres, qui ont les capacités de faire animer les services, de ramener la paix, l'action et les résultats. C'est important, ces personnes-là sont disséminées au Congo partout, ils sont disséminées dans la diaspora et surtout en particulier dans nos provinces et dans nos universités. Ces personnes capables sont partout et il suffit de les dénicher et les identifier.
On va accorder la parole à ces derniers auditeurs. On fait signe, c'est un auditeur qui a préféré réagir sous couvert d'anonymat. On va l'écouter.
Bonjour la radio Okapi. Merci pour cette belle opportunité. Merci pour le sujet d'aujourd'hui. Vous parlez de la spoliation de l'immobilier de l'État congolais. Je pense que ce sujet date de longtemps. Nous l'avions déjà parlé depuis l'année passée, mais nous nous rendons compte que rien ne change. Cher journaliste, Pierre Jacquemot, dans son ouvrage « La résistance à la bonne gouvernance dans un État africain », qu'est-ce qu'il dit? À la page 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au Congo, tout est possible. Il dit qu'au Congo, la nomination politique peut s'acheter. Un titre académique peut s'acheter. Un titre foncier peut s'acheter. Voyez-moi ça. Donc, la corruption, c'est le mot de toutes choses. Tant que notre État reste un État corrompu, je ne pense pas que les choses pourront changer. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les choses changeront. La corruption. Parce que vous serez d'accord avec moi que il y a certains députés qui sont entrés au pouvoir, pauvres. Mais aujourd'hui, si vous partez là où ils vivent, ils ont de maisons luxueuses. L'exemple typique de Jean-Marc Kabound. Kabound n'avait rien. Kabound a fait 2 ans à la première présidence de l'Assemblée nationale. Mais regardez ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que la corruption reste les mots qui ronge notre société. Tant que la corruption bat les records en RDC, je ne pense pas que les choses pourront changer. C'est pourquoi il est de la responsabilité de notre État de sanctionner tous les fautifs, de sanctionner tous ceux qui se donnent à la corruption, de tous ceux qui se donnent à ce que nous appelons les Madeswabana, les Matabiches. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci beaucoup, bon, cet auditeur anonyme hein, qui a préféré réagir sous couvert d'anonymat. On va prendre le tout dernier cette fois-ci à la réalisation. Vraiment, c'est le tout dernier. C'est bon, bientôt il va. On me fait signe qu'il n'est pas encore en ligne. On va le retrouver tout à l'heure. Ça sera Malonga depuis Bandundouville. Et en attendant d'avoir Malonga depuis Bandundouville, comment réagissez-vous à ce qu'il nous a dit cet auditeur anonyme? La corruption.
La facilité de certains députés, c'est lui qui entre en babouche. On l'avait déjà dit. Donc tout ça, ce n'est possible que parce que la sentinelle chargée du moral des députés, des autorités publiques et de toutes sortes a disparu. Cette autorité-là s'est effondrée. Nous le voyons même, hein, tu vois les désordres dans la ville, les désordres dans nos villes. La police ne sait même pas c'est elle qui doit interdire yo au côté en zungwanate au bandote kamaki au côté en baboulana yoanate. C'est la police. Les différents downtown, ça veut dire les centres-villes de nos villes, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani. Donc les gens viennent de leur village et ils viennent avec son petit brasero et ils le mettent au coin du boulevard. Ils commencent à vendre. Donc ça veut dire l'effondrement.
Maître Riffet, vous permettez, on écoute rapidement Malonga et puis on va conclure. Bonjour Malonga qui intervient depuis Bandundouville.
Bonjour Marcel et bonjour à notre invité. Vraiment, je suis content d'intervenir à cette émission puisque ça touche vraiment le fond de la nation et surtout la personnalité aussi de chacun, chacune de nous, RDC Congolais, RDC Congolaises. Marcel, vous voyez, l'invité vient de dire vraiment le principe de loi. Il dit tout concernant notre thématique. C'est ce qu'il faut observer concernant notre thème que nous débattons. Mais je suis à côté de ce professeur Mawidi qui avait écrit sur les consciences des peuples congolais. Même celui qui nous croyait qu'il peut faire quelque chose de changement, mais il peut commencer bien, mais il va finir vraiment catastrophique. C'est l'exemple, lorsque Joseph Kabila était là, Raïs, lui-même, lors de son départ, il a dit, vraiment, il est sincère, raison pour laquelle je l'encourage. Il a dit de tout ce qu'il a voulu faire pour le peuple congolais. Mais il y a un seul point qu'il a manqué, qu'il ne pouvait pas réaliser, ces mentalités des Congolais.
Voilà, là c'était Malonga depuis Bandundouville. Maître Riffet, vous allez réagir et puis ça sera votre conclusion en une minute.
Tout à fait, non, mais Malonga a raison de constater plus ou moins cette pourriture-là. Mais c'est une pourriture qui peut être relevée. C'est-à-dire, notre pays, nous n'aurons dessali que par nous-mêmes. Giscard d'Estaing avait dit que laisser la pourriture africaine, de cette pourriture sortira un sauveur. C'est donc du désordre que sort le sauveur. Vous voyez, Laurent Désiré Kabila est venu de ces désordres-là. Et puis nous pouvons donc du désordre de 60 à 64 et sortir Mobutu. C'est toujours de la pourriture qui sort un sauveur. Et donc, je crois que c'est important que le pays se redresse. Et c'est le moment. Le moment parce que nous avons un enfant, comme on dit, Mwana Mboka, des pères et des mères. Il faut qu'on puisse saisir l'occasion pour redresser la tête. Et le redressement de la tête, c'est de mettre les personnes qui peuvent, qui ont déjà fait, dont on connaît les capacités, les nominations telles que ça a été fait dans notre pays, telles que ça se fait, ça nous enfoncera davantage.
Merci Maître Riffin Luko Moussoubao. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi au barreau de Litori. Merci d'avoir été des nôtres pour aborder ces questions sur les sanctions prévues par la loi congolaise en cas de spoliation du patrimoine immobilier de l'État. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation, merci pour l'attention des solitaires.
C'est par ici également que nous mettons un terme à ce numéro du magazine Okapi Servi de ce jour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Alain Goy qui est à la mise en onde, à Tati Mapoko qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt dans un autre numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Servi. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.